pratique. Compréhension du moi de la critique. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier la façon dont nous pouvons éliminer le moi de la critique. Il est important que nous comprenions à fond la situation dans laquelle nous mènent les différents types de défauts psychologiques que nous possédons. Ces moi, même si nous les justifions, et pour plus que nous évitions ces situations où ils se manifestent, vont toujours être la cause non seulement de beaucoup de problèmes dans notre vie, mais aussi de notre possible perte d'emploi, de nos maladies et de beaucoup d'autres ennuis qui nous rendent la vie amère. C'est pour cette raison qu'il est important que nous voyions ces défauts tels qu'ils sont, sans les éviter, en sachant vraiment qui ils sont, sans les justifier. Normalement, lorsque nous parlons de nos défauts, nous voulons toujours les justifier. Nous pensons qu'ils sont nécessaires, mais en réalité, ce sont nos défauts psychologiques qui nous pourrissent la vie. Il est nécessaire que nous apprenions à faire bon usage de la parole, du verbe. Le verbe est à l'origine de la création, de l'univers. Le verbe est une géométrie. Si nous observons cette stèle Maya, par exemple, on pourra voir qu'elle a une profonde signification et est en relation avec ce que nous disons. Nous voyons un personnage Maya dans une scène d'autosacrifice. On voit une corde pleine d'agaves, d'épines, qui traverse sa langue. Il est évident que ce sacrifice n'est pas d'ordre physique. C'est plutôt quelque chose de symbolique. Et cela signifie que nous devons faire preuve de beaucoup de volonté, représentée ici par les agaves, par les épines. Beaucoup de volonté pour pouvoir dominer notre langue. Si nous lisons l'Épître universelle de Saint Jacques, nous allons voir comment il parle de la langue. Il déclare que la langue est comme un petit feu qui déclenche un grand incendie dans la forêt. Notre langue est un organe vraiment très petit, et comme le disait Saint Jacques, comment cette langue si petite, comparée à un petit feu, peut être la cause de si grands incendies? Eh oui, notre langue est petite, mais elle cause de grands problèmes dans notre foyer, dans notre couple, dans notre travail. Saint Jacques nous dit aussi que notre langue est comme le gouvernail d'un bateau. Très petit si on le compare au bateau lui-même, mais c'est lui qui conduit le bateau, c'est lui qui domine le bateau. Notre langue fait la même chose. Celui qui apprend à dominer sa langue apprend à dominer tout son corps. Il est donc vraiment important que nous ayons un usage sage de la parole. Ce qui inclut, bien sûr, de ne pas critiquer, ne pas mentir, de ne pas dire de grossièreté, ne pas maudire, ne pas prononcer des paroles à double sens. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la critique. Pour commencer, nous devons dire, mes chers amis, que lorsque nous critiquons, nous faisons beaucoup de tort, non seulement aux autres personnes, mais aussi à nous-mêmes. Et la critique est complètement fausse. Car nous devons comprendre que nous ne nous connaissons pas. Oui, franchement, nous pouvons dire que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Thalès de Milet déclarait « Noce te ipsum ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Ces paroles furent gravées dans le temple de Delphes, dans la Grèce antique. Si ces paroles ont été écrites, c'est que nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Car si nous nous connaissions, si nous avions réellement qui nous sommes vraiment, les choses seraient différentes. Nous serions bien différents, nous serions heureux, nous vivrions pleinement, nous n'aurions pas autant de problèmes dans la vie comme c'est le cas de nos jours. La crue réalité des faits est que nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière. Nous ne connaissons aucun de nos mécanismes psychiques qui se trouvent dans notre monde intérieur. C'est pour cette raison que n'importe qui peut nous manipuler comme il veut. Nous sommes les jouets des autres personnes. On veut nous voir contents, on nous tape sur l'épaule en nous flattant ou en nous glorifiant et hop, nous voilà tout contents. On veut nous voir en colère. On nous dit des paroles blessantes, on nous humilie et hop, nous voilà mécontents. Alors, où se trouve donc notre liberté intellectuelle? Quelle est-elle? La raison de cela est que nous ne nous connaissons pas. Et si nous partons de là, pensez-vous que nous pouvons connaître les autres? Tout ce que nous disons d'une personne est faux, parce que nous n'avons aucune connaissance de nous-mêmes, et si nous n'avons pas connaissance de ce qui nous sommes, nous aurons encore moins de connaissance de qui sont les autres. Ce que nous voyons des autres n'est que pure apparence. Nous n'avons que des pures suppositions. Mais vraiment, nous ne nous connaissons pas les autres. Et donc, tout ce que nous dirons des autres sera complètement faux. Parlons en plus d'un des principes gnostiques très intéressants qui dit que nous nous projetons sur les autres. Les autres nous servent de miroir psychologique où nous nous voyons tels que nous sommes réellement. C'est une réalité. Comment pourrions-nous expliquer le fait qu'une personne que l'on ne connaît pas, lorsqu'elle entre chez nous ou lorsqu'on nous la présente, que ce soit au travail ou ailleurs, comment se fait-il qu'à peine nous l'apercevons, nous ne l'apprécions pas du tout? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle a un gros nez ou une vilaine peau? Est-ce que c'est par sa taille ou par sa couleur de peau ou des cheveux qui ne nous plaisent pas? Non. Eh bien, c'est parce que dans cette situation agit une loi physique bien connue qui dit que deux pôles identiques se repoussent et que deux pôles contraires s'attirent. Si nous appliquons cette loi de la physique à notre psychologie, nous comprendrons que si une personne ne nous plaît pas, si elle nous est complètement antipathique, qu'on ne la supporte pas, c'est parce qu'il se produit à cet instant où nous la voyons un choc psychologique. Cette personne possède en elle un défaut psychologique que nous possédons nous-mêmes, et ce défaut est très important en nous. C'est pour cette raison que cette antipathie mécanique se manifeste. Nous nous projetons sur les autres. Les défauts psychologiques que nous voyons chez les autres sont en réalité ce que nous possédons dans notre intérieur. Il serait bien d'ailleurs que nous fassions une liste des défauts des personnes que nous supportons le moins, celles qui nous sont le plus antipathiques, pour les étudier et voir que, dans notre mental, dans nos sentiments, nous allons découvrir avec étonnement que ces défauts que nous voyons chez les autres, nous les possédons en nous-mêmes et qu'ils sont très forts, très importants. Les paroles du grand Kabir jésuit, Ben Pandira, ou le grand maître Jésus de Nazareth, nous le montrent très bien lorsqu'il nous dit: nous voyons la paille qui se trouve dans l'œil de notre prochain, mais nous ne voyons pas la poutre qui se trouve dans le nôtre. Et je ne pense pas que quelqu'un veuille contredire les paroles de ce grand maître Jésus qui affirme cette terrible réalité. Il est donc très important que nous étudions cela. Nous nous projetons dans les autres. Notre prochain nous sert de miroir pour que nous nous voyions tels que nous sommes. Si, par exemple, nous voyons un ivrogne dans la rue et qu'il nous est très antipathique, nous pouvons dire « Mais moi, je n'ai jamais été ivre, je n'ai jamais bu. Comment pourrais-je avoir en moi ce défaut de l'alcoolisme ?» Cette affirmation est complètement fausse. Mes chers amis, il ne suffit pas de s'enivrer pour avoir un moi alcoolique très important dans notre monde intérieur. Nous avons des moi en nous qui ne se sont jamais manifestés. Nous ne nous sommes jamais rendus compte que nous les avions en nous, mais ils existent vraiment dans notre monde intérieur. De même, une personne peut déclarer en voyant un assassin, par exemple, dans un film, à la télévision, « Cet assassin est très antipathique et il m'est insupportable à cause de tout le mal qu'il a fait. » Mais moi, je n'ai pas du tout ce moi assassin en moi. Là encore, cette personne se trompe. Bien sûr que nous avons ce moi assassin en nous. Lorsque nous voyons un film où l'acteur de ce film assassine quelqu'un et commet une erreur et se fait prendre et va en prison à cause de cette erreur, on se dit souvent en soi-même « Pourquoi a-t-il commis cette erreur? Pourquoi a-t-il agi ainsi? Il aurait dû faire comme ci ou comme ça et on ne l'aurait pas découvert. S'il n'avait pas agi de la sorte, il serait libre. » Il n'aurait jamais été découvert. Que se passe-t-il à cet instant-là? C'est notre moi assassin qui se manifeste. Lorsque quelqu'un nous fait du mal psychologiquement, comment agissons-nous? Les étudiants ou les élèves que le professeur réprimande, nos parents lorsqu'ils nous punissaient et nous grondaient, est-ce que par hasard nous n'avions pas envie mentalement de les tuer, de leur sauter dessus? Voilà nos moi assassins. Voyons comment cela se passe lors des manifestations dans la rue. Des professeurs ou des personnes très décentes et éduquées, qui n'ont jamais dit de paroles négatives, se mettent soudain dans une manifestation à crier, à jeter des pierres, à dire des grossièretés. Pourquoi? Parce que ce sont leurs moi qu'ils possèdent dans leur monde intérieur qui se manifestent à ce moment-là. Et puis, voyons ce qu'il se passe en temps de guerre. Des moi que nous ne pensions jamais avoir, des moi assassins, des moi violeurs, des moi voleurs. Ils se manifestent pendant la guerre, et ces moi que nous ne pensions jamais avoir apparaissent lorsque des conditions favorables se présentent. Et s'ils se manifestent, c'est parce que nous les possédons. Il est très important que nous comprenions que nous ne devons jamais critiquer les autres. C'est aussi vrai pour notre santé, pour notre travail. Est-ce que vous pensez que notre patron, si nous sommes ses employés, va être très content de nos critiques? Même si nous le faisons avec les meilleures intentions du monde, même si nous déclarons que ce sont des critiques constructives, nous avons tous en nous de l'orgueil et de la vanité. Dans notre société actuelle, nous sommes tous remplis d'orgueil et de vanité. Nous avons tous en nous ces moi extrêmement importants et forts. Est-ce que si quelqu'un nous critique, on va se sentir content? Est-ce que notre patron va se sentir bien si on le critique? Non, il va se sentir blessé dans son orgueil et dans sa vanité, et tôt ou tard, nous perdrons notre travail. Et si nous autres sommes des patrons et que nous avons des employés, si nous sommes neurasthéniques à cause d'un travail très important, nous allons aussi critiquer et juger les autres. Et vous pensez que nos employés vont être très contents d'être ainsi critiqués? Pensez-vous qu'ils vont travailler dans la bonne humeur et être motivés? Pensez-vous qu'ils vont produire ce qu'ils doivent produire? Bien sûr que non, parce que nos employés ont aussi de l'orgueil et de la vanité. Et lorsque nous les critiquons, ils vont être mécontents, ils vont travailler à contre-cœur, sans envie. Ils ne vont pas se sentir comme faisant partie de votre entreprise. Alors l'échec ne sera pas loin. Le défaut psychologique de la critique est l'un des défauts qui nous cause le plus de tort, qui nous apporte le plus de problèmes dans notre famille, dans notre travail. Il est responsable de beaucoup de conflits, de problèmes. Les défauts psychologiques que nous voyons chez notre épouse si nous sommes un homme ou chez notre mari si nous sommes une femme sont en réalité les défauts les plus importants que nous possédons dans notre intérieur. Nous devons appliquer le principe de l'empathie. Nous avons entendu parler de la sympathie et de l'antipathie, mais il y a autre chose, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. C'est d'arriver à ressentir ce que ressent l'autre. Penser ce que pense l'autre. Si nous travaillons à cela, nous allons arrêter de critiquer. Nous devons étudier toutes les facettes de ce moi de la critique pour pouvoir les comprendre et les éliminer. Nous devrons faire ce travail à travers l'auto-observation psychologique. Voyons ce défaut avant toute chose, acceptons-le et étudions-le dans notre vie quotidienne avec notre auto-observation. Puis, avant de nous endormir, relaxons notre corps et essayons de comprendre ce défaut. C'est ce que nous allons faire maintenant. Bien, mes chers amis, installez-vous dans une position confortable, fermez les yeux. Nous allons relaxer notre corps. Nous allons relaxer notre corps physique. Les pieds. les orteils, les chevilles, les mollets. Et au fur et à mesure que nous nous relaxons, prenons conscience de ce moment, sans que notre mental ne s'échappe. Soyons ici et maintenant. Relaxons nos genoux. Et nos cuisses. Prenons conscience de cet instant. Nous sommes ici et maintenant. Relaxons nos hanches. Nos fessiers, nos organes créateurs. Relaxons notre taille. Relaxons avec patience chaque partie de notre corps. Relaxons notre ventre, notre poitrine et notre dos. Relaxons nos épaules. Nos bras et nos mains. Relaxons notre nuque. Notre cou. Et toute notre tête. Maintenant que nous avons bien relaxé notre corps physique, concentrons-nous sur notre être, sur notre esprit, sur cette étincelle divine, et demandons-lui, supplions-le, pour qu'il nous aide à comprendre ce défaut de la critique. Nous allons relaxer maintenant notre mental et vocaliser le mantra OM, O, M. Avec ce mantra OM, nous invoquons la divinité. Vocalisons-le avec beaucoup de foi et de dévotion. Om. Bien. Maintenant que nous avons notre corps physique bien relaxé, ainsi que notre mental, recherchons dans notre mémoire une manifestation de notre moi de la critique, le premier qui nous vient à l'esprit. Nous allons l'observer comme si nous assistions à un film, mais surtout sans nous identifier à lui, sans le condamner, sans le justifier. Observons-le tout simplement, de façon sereine. Observons la scène. Observons notre comportement. Voyons comment nous critiquons les autres. Essayons de ne pas juger ce défaut, ni de le justifier non plus. Observons ce défaut de la critique. Voyons comment il nous contrôle. Voyons de quelle façon il contrôle notre mental. Quelles étaient nos idées à ce moment-là? Qu'avons-nous ressenti dans notre centre émotionnel? Comment a-t-il contrôlé notre centre moteur? Quel geste avons-nous fait? Comment est-ce que nous bougions? Quels étaient les instincts qui nous ont effleurés? Et voyons s'il a contrôlé notre centre sexuel. Quelle a été la première et la dernière fois que s'est manifesté ce défaut dans notre vie? Essayons de nous souvenir de la première fois. Et quand s'est-il manifesté pour la dernière fois? Voyons avec quel moi s'associe ce moi de la critique que nous étudions. Certainement avec de l'orgueil ou avec un sentiment de supériorité, d'auto-importance. Chaque personne est différente. Quels sont les moi qui se sont associés à ces moi de la critique dans chacun de nous? Avec quoi s'alimente ce défaut de la critique? Dans quels endroits? Devant quelle personne? Peut-être au moment de déjeuner, nous critiquons tout le monde. Ou bien dans notre travail. Avec quoi s'alimente ce défaut de la critique? Pourquoi ce défaut surgit-il? À quel moment et quelles sont les causes de sa manifestation? Condamnons maintenant ce défaut. Quels sont les ennuis qu'il nous cause? Quel mal fait-il aux autres personnes? Quel dommage cause-t-il? Et en suppliant notre Mère divine, qui est le principe féminin divin, l'aspect féminin de notre être, demandons-lui qu'elle détruise ce défaut de la critique que nous avons étudié. Remercions nos parents internes de l'aide apportée dans cette pratique. Très bien. Nous pouvons ouvrir les yeux lentement et bouger notre corps. Nous venons de faire cette pratique de façon didactique, mais nous pouvons la faire le temps que nous voulons. L'idéal serait que nous la fassions pendant 1 heure tous les jours. Mais évidemment, nous pouvons commencer par la faire 15 minutes, comme nous venons de le faire à l'instant, et augmenter peu à peu le temps, sans pour cela regarder sa montre à chaque instant. Il faut tout simplement se mettre à méditer, pour essayer de comprendre tous nos défauts psychologiques et, peu à peu, nous augmenterons le temps de la méditation jusqu'à la faire au moins 1 heure par jour. L'important est que nous adoptions cette discipline tous les jours. Nous vous recommandons aussi de faire la pratique du Blue Time ou la thérapeutique du repos. Elle se trouve sur notre site dans la section des pratiques spéciales. C'est le Blue Time fondamental. Vous pourrez l'étudier pour approfondir encore plus la pratique que nous avons faite aujourd'hui. Et en ce qui concerne la bibliographie pour ce mois de la critique, nous vous recommandons de lire le premier chapitre du livre « Introduction à la gnose » pour approfondir ce sujet extraordinaire du mois de la critique. Chers amis, c'était le sujet d'aujourd'hui. Institut culturel Quetzalcoatl, www.samaelgnosis.net